France Inter. Xavier Demany. Le téléphone sonne.
Vous avez peut-être passé des heures devant votre télé ces dernières semaines. Moi-même, pourtant pas dingue de sport, j'y ai pris goût jusqu'à tard encore cette nuit pour vivre en direct le terrible abandon du français Johan Diniz. 15 jours de Jeux Olympiques viennent de s'écouler, des centaines d'épreuves, des milliers d'athlètes. Tout ça prendra fin dimanche avec la cérémonie de clôture. Pourtant, avec le Covid, les faux départs et les obstacles ont été nombreux, mais l'engouement, semble-t-il, reste intact, au moins derrière les écrans. Alors on retiendra les sourires des uns, les larmes des autres, la force, par exemple, de la gymnaste Simone Biles, les médailles de nos judokas français, la détresse de Renaud Lavillenie, Kevin Mayer, jusqu'au bout, malgré la douleur. Au tableau des médailles, la France n'est pas au top, mais reste dans les 10 meilleures nations, 27 au total, dont 7 en or. Ce n'est pas encore tout à fait fini d'ailleurs, nous avons des chances encore. Mais bien au-delà de cette comptabilité, au fond, qu'est-ce qui nous passionne tant dans ces JO? Qu'est-ce qui nous pousse à regarder ces sports que pas grand monde ne comprend, à soutenir ces sportives, ces sportifs que pas grand monde ne connaît? L'admiration, le respect de la performance, de l'effort, de l'esprit d'équipe, la fierté tricolore, les combats, les luttes, sans doute un fin mélange de tout ça. Est-ce que les JO suscitent chez vous, chez vos enfants, vos petits-enfants, des vocations, des destins, débloquent des complexes, lèvent des doutes? À 3 ans des nôtres, de JO, ceux de Paris 2024, qu'est-ce qui nous inspire chez ces athlètes, qu'ils soient français ou non? On en parle ce soir au téléphone sonne. C'est votre émission, vos questions, vos réactions, vos témoignages. Vous êtes toutes et tous les bienvenus.
Le téléphone sonne.
Et la première, c'est vous, Lisa. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et bienvenue sur France Inter. Vous nous appelez de Lyon.
Oui, exactement. Je rejoins un peu ce que vous avez dit en introduction. Moi, je suis pas une téléspectatrice passionnée de sport. Même en général, je zappe plutôt sur ces programmes-là. Mais par contre, pour les JO, j'adore regarder les JO. Donc après, c'est vrai que ça va, ça permet de regarder des athlètes qu'on voit tous les 4 ans, qu'on voit quasiment que tous les 4 ans d'ailleurs. Et du coup, c'est des gens qu'on revoit d'Olympiade en Olympiade. C'est des sports aussi qu'on n'a pas l'habitude de voir. Le curling en hiver, on voit des gens qui astiquent la glace pour que ça glisse mieux. C'est totalement surréaliste. Et pourtant, on regarde et on aime ça. Et en été, il y a le canoë-kayak qui est formidable. On voit des sportifs se battre contre les courants et c'est passionnant. Et c'est vrai que on regarde ça avec enthousiasme et on se met à la place des sportifs. Hier, effectivement, je suis restée jusqu'à 1h du matin à regarder Johan Diniz sur son épreuve de marche. Regarder de la marche à la télé, c'est vraiment quelque chose que je ne fais que pendant les JO. Et pareil pour, par exemple, des fratries qu'on retrouve sur les sœurs d'Ibaba sur le 5000 mètres. C'est des sœurs qu'on voit d'Olympiade en Olympiade et on les suit et on les regarde, on est content de les revoir et c'est presque des connaissances. Alors que pas du tout, on les voit que tous les 4 ans. Donc on, voilà, c'est quelque chose qui est assez extérieur à notre vie habituelle. Et pourtant, c'est quelque chose qui est passionnant.
Et que vous regardez avec plaisir. Merci pour votre appel, Lisa. Et avec nous, pour vous répondre ce soir, certains athlètes que vous avez peut-être suivis ces dernières années. Je ne les vois pas, mais ils sont tous bien là. 3 invités. Manon Brunet, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes escrimeuse, vous maniez le sabre et vous revenez multimédaillée de Tokyo, le bronze en individuel et l'argent par équipe. Bravo à vous, comme ça c'est dit.
Merci.
Avec nous à distance également, Samir Aït Saïd, gymnaste, l'un des 2 porte-drapeaux de la délégation française au Japon pour ces Jeux. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes bien avec nous et malgré une blessure, vous avez terminé 4e en finale aux anneaux. On en reparlera sans doute au cours de cette émission. Et puis en direct des bureaux de France Inter à Lyon, Philippe Liotard, sociologue du sport et enseignant chercheur à l'université de Lyon 1. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Voilà, les présentations sont faites et je vous transmets tout de suite la question de Lisa. Les JO, c'est un moment de découverte en fait de sport. Peut-être par exemple de la gymnastique, Samir Aït Saïd.
Oui, effectivement, la gymnastique, c'est un sport qui est très peu médiatisé. Et on voit ce sport généralement, comme le disait madame, généralement que aux Jeux Olympiques.
Liaison un peu compliquée pour l'instant. Manon Brunet, effectivement, des sports qu'on voit peu, c'est le cas aussi de l'escrime, assez peu médiatisé finalement.
Ah bah oui, l'escrime, ça passe jamais à la télé, ça c'est sûr. On sait que le rendez-vous, c'est les jeux, et du coup, on essaie de faire le maximum.
Et ce qui est intéressant aussi dans ce qu'on entend, c'est que ces sports sont peu médiatisés, et puis on arrive quand même à vous suivre, c'est ce que nous dit Lisa. Elle suit les sportifs d'Olympiade en Olympiade. Ça a été votre cas, vous en avez joué plusieurs. Ça vous plaît que les supporters, en tout cas les Français, vous suivent d'Olympiade en Olympiade?
Oui, complètement. C'est sûr que nous, on aime montrer notre sport, les escrimeurs en général, et je pense tous les sports amateurs. Et du coup, savoir que la France regarde et la France espère des médailles, ça nous fait chaud au cœur. Et quand on rentre et qu'on nous a dit « j'ai découvert ton sport », ça nous a donné de l'émotion. Et j'avais que mon enfant en face, c'est jackpot, quoi.
Philippe Lyotard, qu'est-ce qui fait que certaines d'entre nous se lèvent en pleine nuit pour voir ces sports parfois, disons-le, un peu incongrus?
Alors, je répondrai deux choses. D'abord, oui. c'est vous les médias. S'il n'y avait pas les médias, personne ne se lèverait la nuit. Parce que l'intérêt pour ces sports, c'est un intérêt qui est construit médiatiquement. Et il est effectivement construit pour les Jeux Olympiques. On le voit pour le sabre, notamment le sabre des femmes, qui est une pratique tardive dans l'histoire de l'escrime, ou pour la gymnastique, qui sont des sports peu exposés médiatiquement le reste du temps. Donc il y a autour des Jeux Olympiques un récit qui, effectivement, va se construire bien avant les Jeux et qui va donner un intérêt, qui va construire un intérêt. Et puis surtout, l'autre intérêt, c'est pas un intérêt sportif. Dans le récit qui est construit par les médias, qui alimente cet intérêt pour les Jeux Olympiques, c'est un récit national. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est d'effectivement voir les sportifs ou les sportives français et françaises. Johan Diniz, même s'il perd, effectivement, on va pouvoir le suivre, on va pouvoir regarder, parce que ça fait plusieurs Olympiades, plusieurs championnats du monde qu'il est présent. Mmh. Il a déjà gagné, il a déjà souffert, il a déjà abandonné. Et donc, il y a toute une histoire autour de lui, par exemple, autour de Renaud Lavillenie, autour des gagnants comme des perdants, mais parce que ce sont des Français. Et c'est aussi un point important.
C'est-à-dire qu'on soutient presque plus les Français que des sportifs, en fait.
Bien évidemment. Regardez, par exemple, quelque chose de très intéressant. La médaille d'or du saut en hauteur, on l'a pas vue, puisque Gianmarco Tamberi, l'Italien, et Mutazessa Barchim, le Qatari, qui se partagent la médaille d'or, qui n'arrête pas le concours, qui termine le concours à égalité. On l'a vu
après coup. Qui décide de partager la médaille d'or.
On l'a vu après coup parce que la télévision française était sur d'autres événements, alors que c'était quand même un moment important sportivement que cette finale olympique du saut en hauteur.
Alors ça, c'est peut-être un problème de la diffusion des médias quand même, et on le verra peut-être. Il y a aussi aujourd'hui Internet qui nous permet de suivre en multidiffusion et absolument tous les sports et tous les flux en ligne, en direct. Hein.
Bien sûr.
Et c'est un changement dans le suivi des JO.
Alors c'est un changement, en fait pas vraiment, puisque Internet oui, mais les Jeux Olympiques aujourd'hui c'est vraiment un événement planétaire, comme la Coupe du Monde de football par exemple, comme d'autres événements, qui en fait rassemblent très peu de gens dans les stades par rapport au nombre de personnes qui vont suivre l'événement. Et donc c'est un événement qui se suit à distance, et pratiquement virtuellement. Et vous avez raison de dire qu'on pouvait voir aujourd'hui, là, pendant ces semaines de Jeux Olympiques, tous les sports, toutes les compétitions, notamment via Internet, gratuitement. Simplement, il n'y a pas de couverture médiatique. Et par exemple, qui a suivi, les épreuves d'haltérophilie dans lesquelles il n'y avait pas d'hommes ou de femmes françaises et français? Personne, à part peut-être des spécialistes d'haltérophilie. Et on n'a pas vu, par exemple, gagner un Canadien ou un Camerounais faire un bon score, parce que ça n'est pas inscrit dans ce programme, en fait, ce programme médiatique qui alimente l'intérêt.
En tout cas, on a suivi nos Français. Je voulais juste vous poser une question, Samir Aït Saïd. On parlait de drapeaux, de découvrir des nations et des sportifs, de les suivre aussi. Vous, vous avez été porte-drapeau, carrément. Quelle a été, ça a été une fierté pour vous? Ça a été une fierté de passer à la télé et d'être vu par des milliers et des millions de téléspectateurs?
Bah, ça a surtout été une fierté, de porter toute une nation derrière soi, plutôt que de dire, bah voilà, je suis fier d'être passé à la télé. C'est pas ça du tout. Mais voilà, moi je suis quelqu'un de très patriote. On se connaît pour la plupart plus ou moins. Mmh. On a l'habitude de se fréquenter au sein de l'INSEP. Donc en fait, c'est toute une famille France Olympique en fait qui est parti sur Tokyo à la conquête de médailles. Donc toutes ces sportifs sportives médaillés ou pas, eux sont fiers de représenter la France et sont fiers de se battre au plus haut niveau pour faire briller la France. Et donc du coup, être porte-drapeau, c'est vraiment une fierté. Je suis quelqu'un de très patriote, donc quand on m'a dit tu es porte-drapeau, ça a été une joie immense.
Allez, on va rejoindre Jackie à Nîmes. Bonsoir Jackie.
Oui, bonsoir France Inter.
On vous écoute.
Merci. Alors, je vais prendre un petit peu le contre-pied de la valorisation des sportifs telle qu'elle est faite dans cette émission. Globalement, le sport, effectivement, ce sont des valeurs, mais surtout des valeurs de convivialité, des valeurs de solidarité, des valeurs de santé, très important. Et aujourd'hui, on voit, alors je ne mets pas en cause absolument pas les sportifs qui y participent et qui font tout, qui ont toutes ces valeurs et qui le font avec grand cœur. Le petit bémol, c'est que je trouve que depuis pas mal d'années maintenant, un certain temps, on médiatise de façon industrielle les sports. C'est devenu, on met de côté un petit peu les perdants et on valorise extrêmement, enfin, médiatiquement, les industries se mettent au service du sport. Là, on parle des semelles qui vont faire des performances meilleures aux athlètes de l'athlétisme et d'autres. C'était complètement récupéré par la médiatisation, l'industrialisation du sport.
Un sport qui perd son âme, selon vous, c'est ça?
Est-ce que ça va véritablement au service de la population qui a besoin de sport, encore une fois, pour sa santé physique, mentale, et trouve que les gens qui font du sport sont aussi valeureux que les meilleurs sportifs qu'on met en exergue, en vedette, sur la médiatisation que l'on voit aujourd'hui.
Manon Brunet, cette question peut-être un peu provocante de Jackie, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense qu'il a un peu raison, mais c'est sûr que le football, il y a beaucoup plus de gens qui regardent à la télé, donc forcément c'est beaucoup plus médiatisé que des sports comme la gym et l'escrime, donc il faut que tout le monde s'y retrouve. Nous, forcément, les sports comme la gymnastique et l'escrime, on aimerait passer tous les jours à la télé. Parce que on aime notre sport et on transpire tellement dedans qu'on aimerait que tout le monde le voit, tout le monde se rend compte de la difficulté et aime ce que l'on fait. Mais voilà, les médias ne peuvent pas se retrouver à présenter tous les sports, c'est évident.
Allô? Oui, on est toujours avec vous, Manon Brunet. Je vais poser la question également à Philippe Lyotard. C'est effectivement, les sportifs surentraînés qui ont en quelque sorte perdu un peu l'âme du sport. Et ça nous fait quand même du bien, enfin, je veux dire, de regarder ces compétitions, de voir des médailles, même de voir des échecs. Ça fait du bien quand on le regarde. Enfin, en tout cas, ça reste positif à la fin.
Oui, alors c'est quelque chose que j'avais envie de dire, mais vous m'invitez à le dire tout de suite. C'est-à-dire que ça fait du bien de voir des gens qui échouent. C'est-à-dire que, alors bien sûr, il y a, on comprend bien ce que dit Manon Brunet quand elle dit on aimerait être tous les jours à la télé, mais ce qui fait l'intérêt du spectacle, c'est la rareté justement. C'est ce que disait la première auditrice tout à l'heure. C'est tous les 4 ans, on voit pas tous les jours de l'escrime, on voit pas toujours Samir Aït Saïd qui a été porte-drapeau aux anneaux, on voit pas tous les jours ces athlètes. Et c'est ça qui va faire l'intérêt justement. Mais la population n'a pas besoin de faire du sport pour adhérer au spectacle sportif et à sa dramaturgie. Et c'est ça, en fait, qui compte. On a suivi les athlètes français, les athlètes françaises, les escrimeuses, les judokas. On a suivi les sports collectifs, les athlètes. Donc ça, c'est quelque chose qui apporte quoi? Qui apporte une passion partagée. Une passion partisane. On prend parti pour et on partage cette passion. On la partage ensemble. Mais, dans ce que vous dites, le surentraînement, en fait, il a été dénoncé d'une certaine manière, par exemple par Simone Biles.
Oui.
Le fait de dire, ben j'arrête, le fait d'aller chercher, finalement, d'aller vers le renoncement, d'accepter le renoncement, alors même que toute la carrière des sportifs de haut niveau est tournée vers la réussite, notamment aux Jeux Olympiques. C'est quand même extrêmement fort de se dire « je n'y vais pas, je ne peux pas, j'arrête ». Et c'est aussi une force. Et je trouve que ces Jeux Olympiques ont montré ça aussi. La capacité à exprimer des faiblesses, mais exprimer des faiblesses par rapport à la question que vous venez de poser, c'est aussi montrer qu'on a une certaine force. Reconnaître ses faiblesses, c'est une force. Et je trouve que ces Jeux Olympiques ont montré une certaine humanisation des sportives et des sportifs qui sortent finalement du modèle qui est l'invincible, en fait.
De plus en plus de se préserver mentalement, de consacrer du temps à leur vie personnelle, de pas forcément mettre corps et âme dans leur sport.
Oui, tout à fait. Alors, si je vois Alison Félix qui a une nouvelle médaille à 35 ans après avoir été maman.
Woman,
voilà. Mélina Robert-Michon qui a fait plusieurs Olympiades également, qui a aussi eu des enfants. On voit qu'il y a des choix qui sont des choix familiaux, des choix personnels, et il n'y a pas forcément une soumission totale au sport. Et je trouve que c'est bien. En revanche, ça permet aux sportives et aux sportifs d'avoir ces rendez-vous importants. Bah, qui vont être suivis. La preuve, ils sont suivis, ça fait partie des gros événements médiatisés. Et je trouve que c'est important ce discours qui s'accompagne d'une forme d'humanité. J'ai donné le maximum, j'ai fait le maximum que je pouvais faire ce jour-là. J'étais blessé ou j'étais pas homme, mais j'ai donné le maximum et je me suis fait plaisir. C'est un discours qu'on entend et je trouve qu'il est important parce qu'il permet justement d'atténuer ce que vous disiez au tout début de l'émission, cette comptabilité systématique des médailles. On ne peut pas dire d'un côté l'important c'est de participer et compter uniquement les médailles et dire que quelqu'un qui est quatrième est arrivé à la place du con. Quelqu'un qui est quatrième, il est quatrième. Et c'est déjà bien d'être quatrième au jeu, même si on peut espérer mieux, bien sûr.
Et j'ai envie de poser cette question à Samir Aït Saïd. Vous avez malheureusement terminé quatrième sur l'épreuve des anneaux cette année et vous avez un parcours voilà, qui a été semé d'embûches, plusieurs blessures, dont une très très grave en 2016 à Rio. Comment on arrive à surmonter tout ça? Comment on fait pour s'en remettre physiquement, j'allais dire, et aussi psychologiquement?
Bah, tout d'abord, c'est la passion. Une personne passionnée va avoir envie d'atteindre ses objectifs. Moi, en l'occurrence, c'est la médaille olympique. Je suis parti là-bas pour me faire plaisir avant tout. Avec l'expérience que j'ai eue à Rio, j'ai vécu ces jeux-là d'une autre manière. Je vais pas dire en tant que spectateur parce que c'est pas du tout le cas, mais par contre, j'ai voulu profiter au maximum, me faire plaisir et pardon pour l'expression, mais j'ai voulu kiffer mon moment. Donc du coup, je suis allé au jeu. Et voilà, j'ai tout donné pour moi, pour n'avoir aucun regret. Donc j'ai fait ma cérémonie le lendemain matin. Mmh. Le lendemain, pardon, je j'entre en compétition. Je me qualifie pour ma finale. Voilà, ça a été de la joie, du bonheur, tout en gardant mon objectif en tête. Et puis voilà, malheureusement, trois jours avant ma finale,
qu'est-ce qu'on se dit quand on se blesse trois jours avant une finale de JO, quand on a déjà loupé le coche plusieurs fois, qu'est-ce qu'on se dit?
Bah là, clairement, je me suis dit pourquoi moi? Pourquoi encore moi? Faut que ça tombe sur moi. Surtout qu'aux qualifications, j'étais troisième des qualifs. En plus, avec une petite erreur, donc je me sentais super bien, je me sentais super fort et j'étais en forme. Et il faut que ce pépin m'arrive encore à moi, trois jours avant. Mais il était hors de question d'abandonner. Voilà, parce que je n'avais pas envie, personne ne m'a forcé. C'est moi qui ai pris la décision. Parce que c'est une finale olympique et c'est un rêve de gamin, c'est un rêve de gosse. Donc voilà, moi quand je vois tous les copains avec leur médaille olympique, c'est une fierté, c'est une fierté. Mmh. Parce que comme le disait Manon, on voit les Jeux tous les 4 ans, certes, mais on ne voit pas ce qui se passe en interne. Et c'est vrai que les sportifs travaillent dur, ils se donnent corps et âme pour représenter au mieux la France. Et ça, les gens ont tendance à voir que la partie émergée de l'iceberg.
Et justement,
il y a tout un travail qui se fait en amont. Donc, il était inconcevable pour moi de déclarer forfait.
On va accueillir Joël. Bonsoir, Joël.
Bonsoir.
Alors, bienvenue sur France Inter. Oui. Un problème de téléphone.
J'étais en parleur. Non, tout va bien.
D'accord.
Bonsoir,
vous êtes à Paris.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir tout le monde. Je rebondis rapidement sur ce que vient de dire. Excusez-moi, j'ai pas les noms.
Samir Aït Saïd.
Pardon.
Samir Aït Saïd, notre gymnaste.
Okay. Donc je reviens sur ce qu'a dit ce monsieur. Moi j'aime beaucoup le sport et il y a une chose que je sais, c'est que les sportifs, quand le commun des mortels allait à 14 ans commencer à sortir à 16 ans en boîte de nuit, etc., etc., ben les sportifs ils sortaient pas, ils bossaient pour atteindre leurs rêves, pour faire peut-être rêver pour eux, je pense d'abord à la base, et ensuite peut-être essayer de faire rêver une nation, un pays. Et c'est quelque chose que je trouve ça m'émeut. Je trouve que c'est moi je suis je me dis que même si on fait qu'une quart de finale, que je mets des gros guillemets à que on est au jeu, c'est pas rien, et je pense que tous les sacrifices qu'on a fait, que vous avez fait, Samir, je ne sais pas comment je vais l'appeler, Samir, excusez-moi.
C'est Samir Aït Saïd et Manon Brunet, tout à fait. Ben, je vais livrer votre question directement à Manon Brunet. Manon Brunet, c'est vrai que c'est un parcours compliqué d'être sportif de haut niveau. En tout cas, ça demande des sacrifices. Vous menez en plus les études et le sport de front, comme beaucoup. Racontez-nous un peu, c'est vrai que c'est un engagement extrêmement fort.
Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de sacrifices, et puis les sports amateurs, exactement, on doit aussi continuer les études parce que le sport ça paye, mais une fois qu'on arrête, bah il y a plus rien. Donc il y a beaucoup de sacrifices à faire, mais comme l'a dit Samir, c'est une passion, donc on choisit de le faire, et finalement arriver aux Jeux Olympiques, c'est déjà pour énormément de sportifs un énorme challenge, et c'est déjà une énorme fierté, parce que on voit les personnes aux Jeux Olympiques, on se dit ah, il a perdu au premier tour, mais juste déjà d'aller aux Jeux Olympiques, c'est déjà une énorme bataille, et ça parfois on l'oublie. Donc en plus de faire quatrième ou de faire médaille ou de rater, et ben faut pas oublier qu'il y a, comme disait Samir, beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices, mais c'est une passion et ça nous plaît de faire tout ça.
Comment on se prépare pour une Olympiade? C'est tous les 4 ans effectivement, et voilà, il y a 4 ans de préparation quoi.
C'est exactement ça. Après Rio, je pense que Samir et moi, on s'est tout de suite dit, ça commence dès le lendemain de la compétition. Et Samir a d'abord dû se soigner, et moi, le lendemain, je me suis dit, quand est-ce que je retourne à l'entraînement, parce que je veux pas refaire quatrième et je veux prendre une vengeance. Donc pendant 4 ans, en fait, on se prépare étape par étape. D'abord on se prépare à se remettre au niveau par les premières compétitions. Après, on se prépare pour la qualification qui commence parfois 2 ans avant. Et après, une fois que la qualification qui a duré 1 an est terminée, là on se prépare pour le jour J, quoi. Donc c'est un travail qui dure pendant 4 ans.
On va quand même le dire, qu'est-ce que vous faites en parallèle des entraînements sportifs, Manon Brunet?
En dehors des études?
En dehors du sport, vous êtes vos études, c'est des études de commerce si je ne me trompe pas, c'est ça?
C'est ça, je fais des études de commerce à distance, et du coup en dehors, je me repose.
Et Samir Aït Saïd, vous, comment se passe l'à côté du sport?
Moi, j'ai fini mes études, j'ai fait des études de kiné, idem en parallèle de ma carrière sportive, pour justement préparer une reconversion. Parce que c'est vrai que dès qu'on termine notre carrière, on n'a plus rien. Donc il est quand même important de penser à l'après, surtout qu'une blessure ou une fin de carrière est malheureusement chez nous vite, vite arrivée. Mmh.
Patricia nous appelle du Var. Bonsoir Patricia.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, je voulais témoigner de participer à cette émission qui me tient à cœur sur les Jeux Olympiques. C'est quand même un objectif pour tout sportif de haut niveau qui est extraordinaire. Moi, je suis très admirative de tout ce qu'ils font, tous les sportifs. Bon, j'étais moi-même gymnaste dans les années 70. Mmh. Et mon objectif, c'était les JO. Bon, j'ai pas pu les faire, malheureusement. Mais quand je vois l'évolution de matériel dans tous les sports, moi, je dis chapeau, parce que ça permet aux sportifs de repousser leurs limites, de nous montrer tout ce que l'être humain est capable de faire avec un mental exceptionnel, que ce soit le premier participant ou celui qui arrive dernier et celui qui arrive en médaille d'or, toute la lutte, que tout ce qu'ils peuvent témoigner dans la souffrance, toute cette préparation qu'ils ont depuis des années pour cet objectif-là, pour quelquefois 10 secondes, pour quelquefois une minute. Bon, Samir, il sait très bien en gym ce que ça coûte. Et puis, arriver blessé, moi, je trouve que dépasser sa douleur, dépasser sa souffrance, moi, je leur dis chapeau. Je suis tous les sports parce que derrière eux, il y a des messages aussi d'esprit sportif. Il n'y a pas de discrimination, ils s'embrassent, ils se félicitent, ils sont là, et c'est comme ça que devrait être le monde à l'heure actuelle, avec tous ces messages que ces grands sportifs nous envoient. Et le témoignage aussi de Kevin Mayer, pour les enfants, pour la jeunesse, moi je trouve que ce sont tous des exemples. Voilà, je dis bravo, mesdames, messieurs.
Quelqu'un veut réagir, Samir Aïd Saïd, Manon Brunet?
Oui. Enfin, bah déjà, ce que disait madame, c'est très intéressant et c'est vrai surtout avec l'évolution, bah voilà, du matériel dans chaque sport, bah ça pousse à être encore plus fort, à repousser ses limites et voilà. Après, des fois, le sport est un peu ingrat. On a beau travailler, et ça ne paye pas forcément, mais voilà, un jour ou l'autre, ça finira toujours par sourire. Voilà, le message que moi je souhaite adresser, surtout moi avec cette finale olympique blessée, c'est que voilà, quand on a un but, il faut s'accrocher. Quand on a un rêve, il faut s'accrocher. N'abandonner n'est pas forcément la solution, mais justement s'accrocher et se battre pour atteindre son objectif. Et ça, quel que soit le domaine, que ce soit dans le sport, dans le domaine professionnel, voilà, il faut s'accrocher. Rien n'arrive en claquant des doigts. Donc voilà, c'est ce message là que je veux adresser à la jeunesse et aux autres. Battez-vous pour atteindre vos rêves.
J'allais vous demander à vous, qu'est-ce qui vous a donné envie au début, Samir Aïd Saïd, qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller, de devenir gymnaste?
Moi, ça a été vraiment, vraiment par hasard, parce que je suis tombé dedans, voilà, en étant gamin à l'école. Je pensais que la gym, c'était juste faire du trampoline et sauter avec les copains. Donc, je pensais que la gym, c'était ça, et j'étais vraiment un enfant turbulent, on va dire. Donc, il fallait canaliser cette énergie, et donc, du coup, j'ai dit à mon père, qui voulait m'inscrire au judo, non, c'est bon, je veux m'amuser un peu au trampoline, m'éclater sur le trampoline avec les copains. Et
ça a l'air d'avoir marché. Manon Brunet, quel a été le déclic pour vous, l'escrime? Comment vous y êtes venue?
Moi aussi, c'est un peu par hasard. Je faisais du sport, mais j'ai une copine qui m'a proposé l'escrime. Et quand j'ai mis la tenue, je suis un peu tombée amoureuse du déguisement.
C'est la tenue qui vous a fait envie. C'est la tenue
c'est
blanche.
C'est un peu ça, ouais, avec le masque, on est un peu caché. Du coup, vu que j'étais une petite fille assez timide, et ben j'ai pu un peu me dire, ben maintenant je suis protégée, donc je peux être un peu qui je veux, quoi.
Hélène, on va accueillir Hélène qui est au téléphone de France Inter. Bonsoir, Hélène.
Oui, bonsoir.
On vous écoute. Dites-nous votre question.
Eh ben, écoutez, moi je me souvenais que quand mes enfants étaient petits, maintenant ce sont des grands adultes, on regardait les JO pour que justement ils découvrent toutes sortes de sports différents et que ça leur donne envie. Et je me demandais quelle est la position des sportifs que vous invitez ce soir par rapport à ça, de peupler leur fédération avec des nouveaux adeptes. Et en même temps, je me demandais s'il n'y avait peut-être pas un effet un petit peu pervers de nos jours, parce que tout d'un coup, ça semble tellement facile ce qu'ils font à la télé. Et on commence seulement à réaliser publiquement les efforts qu'ils doivent consentir, les sacrifices qu'ils font, les souffrances qu'ils endurent. Et par contre, on donne peut-être un peu trop l'image à nos enfants de pouvoir être une superstar du sport demain matin.
Philippe Lyotard, est-ce que vous voulez réagir à ça? Les JO, ça donne un aperçu de ce qu'on peut faire, ça peut révéler des vocations?
Alors c'est le discours, c'est pratiquement le discours officiel, hein, que les Jeux Olympiques vont permettre d'avoir des milliers de nouveaux licenciés en sabre, en gymnastique, etc. Bon, c'est pas vraiment sérieux. Enfin, on sait qu'il y a un impact médiatique, certes, mais dans la durée, c'est pas ça qui va amener des enfants à vouloir devenir champions.
C'est pour l'anecdote, en tout cas.
Oui, mais je me posais la question justement très sérieusement par rapport à ce que vous dites. J'ai quand même lu plusieurs choses sur le fait qu'il y avait peu de médailles françaises en athlétisme, peu de médailles françaises en natation, y compris dans des sports où on avait habituellement plus de médailles que ça. Et je me suis posé la question, mais c'est vraiment une hypothèse, est-ce que justement ce modèle de la réussite sportive, c'est pas quelque chose qui est en train d'échapper aussi aux jeunes générations qui, comme on l'a vu tout à l'heure, ont peut-être plus le désir de pratiquer pour elles-mêmes, pour le plaisir et pas forcément pour la réussite, pour la médaille. Tout à l'heure, quand Samir Aït Saïd disait il faut tout donner pour son objectif, je ne suis pas sûr que l'objectif d'avoir une médaille olympique ce soit l'objectif de tous les petits sportifs et de toutes les petites sportives. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'il faut interroger. Après, pour prolonger votre réflexion, il y a effectivement tout un tas de sacrifices nécessaires. Notamment, il y a un sacrifice de la vie sociale. On l'a dit tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que pour devenir sportif de haut niveau, il faut renoncer à plein de choses. Et je ne suis pas sûr que ce soit acceptable pour tous et pour toutes. Maintenant, ce qu'il faut voir également, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir le discours très volontariste qui a été proposé tout à l'heure par Samir, abandonner, c'est pas forcément la solution, etc. Eh ben, je ne suis pas sûr que, par exemple, Simone Biles, quand elle abandonne ou quand elle renonce, elle n'est pas justement, elle ne soit pas en adéquation avec son objectif. Son objectif, c'est plus seulement un objectif sportif, c'est un objectif de bien-être. Et ça, c'est important qu'elle puisse aller dans le sens de ce qui compte vraiment pour elle. Et finalement, peut-être décevoir des gens autour d'elle qui attendaient une médaille, qui attendaient une réussite sportive. Or là, peut-être que son objectif, à ce moment-là, était plus important du côté de son équilibre psychologique. Et ça, c'est important. Et je trouve que ça fait partie des choses aussi qu'il faut avoir en tête. Parce que, comme vient de le dire Hélène, les effets pervers, peut-être, c'est de conduire les sportives et les sportifs. Et je parle surtout des jeunes, des très jeunes. Je parle pas des adultes. Notamment Manon ou Samir qui ont été aux Jeux Olympiques, qui sont allés en finale, qui ont été médaillés. Mais il y a aussi quelque chose qui peut être interdit d'accepter que le sport ne soit pas tout dans la vie d'un sportif ou d'une sportive.
Est-ce que l'un d'entre vous, Manon Brunet, ou Samir Aït Saïd, est-ce que vous voulez réagir?
Oui, moi je veux bien réagir.
Allez-y.
Alors moi je suis pas forcément d'accord avec vous. Honnêtement, on peut être sportif et ne pas vouloir aller aux Jeux Olympiques, ou on peut être sportif et ne pas vouloir faire du haut niveau. Il faut vraiment savoir faire la part des choses. Il y a énormément de sportifs, eux, qui pratiquent leur activité physique pour eux, pour se sentir bien, et d'autres vraiment qui ont un objectif d'aller aux Jeux Olympiques. Reprenons le cas de Simone Biles. Ça a été une très très grande championne. Elle a eu des médailles olympiques à foison. Elle a déjà eu d'autres problèmes, que ce soit physique ou psychologique, et elle s'est dit je ne vais pas lâcher. Aujourd'hui, moi je connais exactement son problème qu'elle a, et effectivement, et c'est tout à son honneur de déclarer forfait, parce que elle avait des pertes de sensations aériennes, c'est-à-dire que elle savait plus si la tête allait en haut ou elle était en bas. Donc là, ça commence à devenir très dangereux. Donc elle a eu raison de se dire non, je vais pas faire, parce que j'ai pas envie de finir sur un en brancard dans le meilleur des cas.
Et elle a fini.
Donc voilà, il faut vrai.
Et elle a fini par décrocher une médaille de bronze. Je voudrais qu'on
exactement.
Avance.
Exactement.
Et qu'on...
Exactement.
Et je vais vous poser la question de Christine qui nous écrit sur l'application France Inter. Samir Aït Saïd, je suis interpellé par le nombre de blessés pendant la préparation, nous dit Christine. Ne serait-il pas surentraîné? L'enjeu tellement important est tellement important que je me demande si la préparation ne respecte pas assez les temps de récupération. Vous qui avez été plusieurs fois malheureusement blessé, qu'est-ce que vous répondez à ça?
Alors, les blessures font partie du quotidien des sportifs de haut niveau, parce que on a une grosse charge de travail. Moi, je vais parler pour moi. Effectivement, moi, ça a été des blessures. J'en ai pas eu 36 déjà, j'en ai eu vraiment deux. Une à la jambe et une à l'épaule. Mais ça a été des blessures qui ont été médiatisées. Donc, en soi, deux blessures sur une carrière de plus de 10 ou 15 ans, je pense que c'est pas énorme. Je veux dire, si à 25 ans ou 30 ans, on est encore capable d'être aux Jeux Olympiques, c'est qu'on est quand même en bonne santé, puis on est suivi. Voilà, il faut pas faire peur à cette jeunesse en disant, bah, le sport de haut niveau, c'est dangereux. Non, c'est pas forcément dangereux. Il y a des blessures comme partout. On peut traverser et se faire renverser. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas forcément et que on ne contrôlera jamais. Voilà. Après, c'est vrai que le surentraînement, il faut faire attention, comme le sous-entraînement. Mais dans tous les cas, ça peut être mal interprété. Quelqu'un qui arrive à une compétition en étant un petit peu grassouillé ou pas vraiment très fort, on va se dire, bah, attends, lui, qu'est-ce qu'il fait aux Jeux Olympiques? Il s'entraîne pas, il s'en fout. Et pareil de l'autre côté. Quand il arrive surentraîné, on se dit, attends, il respecte pas son corps, il est aux Jeux Olympiques et il prend des risques. Bah, alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Manon Brunet, je voulais juste qu'on fasse un léger retour en arrière. On a parlé des prises de recul de certaines athlètes, en particulier d'athlètes féminines. Quel regard vous avez, vous, là-dessus?
Bah, moi, je suis... Quel regard j'ai sur ce côté-là? Bah, comme je vous ai dit, je suis vraiment fière qu'il y ait eu beaucoup de médailles françaises sur cette médailles féminines françaises sur cette Olympiade.
Mmh. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup.
Et oui, et aussi, je sais que je fais un sport qui est du sabre et qui est arrivé très tard dans le monde de l'escrime pour les femmes. Et je suis contente de pouvoir me dire, bah, je montre aux jeunes filles que bah, l'escrime, c'est un sport qui est fait pour tout le monde. Et je pense que, comme on disait juste avant, faut pas montrer aux jeunes que bah, c'est pas parce que nous, on gagne des médailles que les jeunes ont envie de faire du sport pour gagner des médailles, mais ont envie de faire du sport parce que le sport, c'est une école de vie incroyable et qui est montrer à des garçons et à des petites filles que tout est possible. Bien sûr, pour ça, il faut pas abandonner, comme le disait Samir, mais vraiment montrer que les Jeux Olympiques sont là pour ça, pour montrer qu'il n'y a pas que le foot, que le basket qui passe à la télé et qu'il n'y a pas que ça comme sport possible. Mais il y a des milliers de sports possibles pour tout le monde et que tout le monde peut trouver ce qu'il aime et ce qui peut le faire vibrer et passionner. Donc j'aime montrer aux jeunes filles que l'escrime peut être une option.
Sur les médailles, vous étiez satisfaite des médailles notamment remportées par les femmes françaises dans ces JO. La faute à qui quand une nation ou une délégation ou une partie de la délégation ne rapporte pas assez de médailles aux athlètes, aux entraîneurs, à la fédération tout entière? La faute à qui?
Je pense que c'est une faute d'ensemble. Hein. Ouais. Je pense qu'on peut pas dire c'est à cause de toi qu'on n'est pas gagné. Je pense qu'il y a une remise en question de tout un système ou de des sportifs qui sont présents à ce moment-là. Il faut se poser les bonnes questions et avancer là-dessus. Et je pense qu'il faut vraiment poser les questions à tout le monde pour pouvoir voir où ça cloche, quoi.
Une petite question pour vous, Philippe Lyotard. On parlait de l'engagement des sportives et des sportifs. Il y a aussi eu énormément de prises de position sur les fiertés, sur l'engagement, en tout cas des coming out ou des athlètes qui ont parlé ouvertement de leur homosexualité. Est-ce que les athlètes s'engagent aujourd'hui plus qu'avant ou pas, ou c'est juste une impression?
Alors pour moi, c'est quelque chose qui est assez révélateur d'une tendance, je dirais, profonde, où on a de nombreuses et de nombreux athlètes qui échappent à la soumission sportive, en fait, à ce que j'appelle l'éthique de la soumission. Pendant longtemps, en tout cas depuis les années 60 jusqu'aux années 2000, on va dire, il était très difficile pour les sportifs de prendre la parole, de s'exprimer sur des choses personnelles. Et il faut dire qu'ils avaient été touchés, par exemple, par les décisions du CIO d'exclure les athlètes américains qui avaient été premier et troisième du 200 mètres à Mexico et qui avaient manifesté lors de la remise de médailles sur leur podium. Mmh. Ils ont été déchus de leur titre, à retirer les médailles. Donc ça, c'est un bon apprentissage pour les sportifs qui consiste à dire taisez-vous, on ne veut pas vous entendre sur certaines questions. Et là, il se trouve qu'il y a différentes choses qui ont joué. Je pense que la mort de George Floyd a déclenché au niveau international une prise de conscience chez les sportifs, professionnels ou pas d'ailleurs, de la possibilité qu'ils avaient de s'exprimer sur ces questions. Et on l'a vu On l'a vu dans tous les sports, dans un grand nombre de sports en tout cas. Et puis, sur ce que vous dites, là, sur la question des coming out, on voit aussi des sportives et des sportifs qui sont homosexuels et qui ne le cachent plus. Ça n'est pas qu'ils l'affirment, c'est qu'ils ne le cachent plus. Et ce qu'on voit, ce qu'on a vu là, c'est pas forcément un coming out au sens où les gens vont utiliser la médiatisation des jeux pour dire qu'ils sont homosexuels, mais c'est simplement des personnes qui, dans la manifestation de joie qui suit une victoire, qui fait que tout le monde a envie de prendre dans les bras les personnes qui lui sont chères, eh bien, il se trouve que les personnes homosexuelles prennent dans leurs bras leurs compagnons ou leurs compagnes, et ça, on le voit.
Et c'est quelque rien que de le voir, c'est important.
Exactement, et ça montre que finalement, les sportives et les sportifs qui réagissent de la sorte n'ont peut-être plus peur ou moins peur de s'exposer. Et ça, je trouve que c'est une tendance qui me paraît assez importante et assez intéressante sur ce qu'elle révèle de l'acceptation de la différence.
Avant de nous quitter, j'ai quand même une question à vous poser, Manon Brunet. Elles sont comment ces médailles lourdes, belles, brillantes, dites-nous.
Exactement tout ça. Elles sont très lourdes. C'est la première fois que je touche des médailles olympiques et j'ai été vraiment surprise. J'ai failli la faire tomber quand je l'ai mis autour de mon cou.
Et vous oui, en avez après, deux, du coup, une pour l'individuel et une par équipe?
Exactement, ouais, j'en ai deux, une en argent et une en bronze. Il manque plus que l'or. J'attends Samir pour ça. Dites-moi.
Non, j'allais vous demander qu'est-ce qu'on pouvait vous souhaiter pour la suite. Un peu de repos et feu sur 2024, c'est ça?
C'est ça, un peu de repos, feu sur 2024 et il y a des compétitions en avant aussi à gagner.
Oui, des compétitions d'une autre échelle. Mais en tout cas, les JO Paris 2024, Samir Aït Saïd également pour vous, objectif 2024.
Oui, exactement, objectif Paris 2024. Pour le moment, on va se reposer un petit peu, on va faire les soins et après on repart à l'entraînement et voilà, on va préparer les jeux comme il se doit.
Eh bien, merci, un grand, grand merci à tous les trois d'être venus dialoguer avec les auditeurs d'Inter.
Merci
Philippe Lyotard, sociologue du sport, et nos deux athlètes, donc Manon Brunet, escrimeuse, je le rappelle, doublement médaillée à Tokyo, et Samir Aït Saïd, gymnaste et porte-drapeau français. Rendez-vous donc à Paris en 2024. L'émission a été préparée par l'excellente équipe du Téléphone Sun cet été. Adèle Domas, Pierre de Certaine, Zoé Fauché avec les indispensables standards d'Inter. Merci à Ludovic Asselot et Loïc Frapsos qui étaient aux manettes ce soir avec Claire Vuillot à Lyon. C'était une première pour moi. Quelques accros, mais un réel plaisir. Dans un instant, les infos, puis Fabrice Drouel.